au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
À l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je consacre cette émission au Dictionnaire des droits de l'homme qui vient de sortir aux presses universitaires de France. Et pour en parler, je reçois M. Joël Andréan Tsimbazovina, co-directeur de l'ouvrage. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Et donc professeur agrégé des facultés de droit à l'Université de La Rochelle. Dans l'avant-propos de ce dictionnaire, vous dites « Les droits de l'homme sont la grande affaire moderne ». Pourquoi un dictionnaire des droits de l'homme? Pourquoi ça vous apparaît comme une grande affaire moderne?
Les droits de l'homme sont éternels. Ce sont toujours des droits qui ont permis à notre société, quelle qu'elle soit, d'évoluer, de progresser. Et actuellement, dans le contexte actuel de crise que nous vivons, on voit bien que les droits des êtres humains, des hommes, des femmes, restent les seuls instruments de référence qui ne changent pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi on considère qu'il s'agit de la grande affaire moderne. Parce que la modernité, c'est quoi ? La modernité, c'est finalement la capacité à s'adapter à l'évolution de la société, sans abandonner un certain nombre de valeurs fondamentales. Et les droits de l'homme font vraiment partie de ces éléments de la modernité.
Combien de temps on passe à rédiger un tel ouvrage et avec qui vous fonctionnez ?
Alors, rédiger, vous savez que la rédaction d'un ouvrage de droit se fait, disons, individuellement. Donc là, il y a 187 auteurs. On a confié à chacun d'entre eux une ou plusieurs entrées, notices, et chacun est retourné dans son bureau faire sa petite recherche. Par conséquent, le temps individuel de chacun, on ne peut pas le savoir. Par contre, le temps collectif, je viens de le dire, est de 3 ans. 3 ans parce que il a fallu à la fois donc préparer ce dictionnaire, pour nous sélectionner les entrées avec les directeurs, je vais vous en parler dans un instant, concevoir l'esprit du dictionnaire et ensuite assurer donc la gestion de la collectivité qui travaille pour ce dictionnaire. Alors, on est 5 co-directeurs, moi-même bien sûr, mais on est 5 professeurs des facultés de droit. On tenait à ce que on soit vraiment une équipe de juristes, parce que les droits de l'homme restent principalement, essentiellement d'abord, question juridique. Mais ensuite, on a voulu aussi, dans les auteurs vous verrez, on a voulu aussi adjoindre des historiens, des philosophes, des politistes, des anthropologues, un certain nombre de personnes qui ont des spécialités autrement que juridiques, mais qui sont des gens qui s'intéressent aux droits de l'homme. Alors les autres directeurs sont le professeur Stéphane Rials, qui est membre de l'Institut universitaire de France et qui est professeur à l'Université Paris 2. C'est un grand professeur qui a des compétences très variées, puisqu'il est à la fois philosophe, historien et bien entendu agrégé des facultés de droit, qui a publié un ouvrage remarqué, un commentaire très approfondi de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ensuite, nous avons le professeur Frédéric Sudre, qui est spécialiste du droit européen et international des droits de l'homme, qui a publié un manuel sur cette question aux presses universitaires de France. Professeur Jean-Pierre Marguénaud, qui est professeur à l'Université de Limoges, qui a publié notamment un ouvrage sur la Cour européenne des droits de l'homme chez Dalloz, mais qui est un spécialiste comme M. Sudre de la Convention européenne des droits de l'homme. Madame Hélène Gaudin, qui est professeure professeur à l'université de La Rochelle, qui est spécialiste du droit de l'Union européenne, et elle a rédigé d'ailleurs dans ce dictionnaire les trois entrées sur les droits de l'homme et l'Union européenne, sauf la Charte des droits fondamentaux qui a été confiée à quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui est aussi spécialiste des questions relatives à l'Europe et à l'intérieur. L'Union européenne aujourd'hui s'occupe des droits de l'homme. C'est en cela qu'elle est là aussi. Voilà.
Très important donc d'unir les talents. Et donc, vous avez mis combien de temps pour la rédaction de ce dictionnaire, vous disiez ?
Trois ans. Nous avons mis trois ans entre 2005 et 2008.
Quelle est la place de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous célébrons, dont nous célébrons le soixantenaire cette année ? Quelle est sa place dans le monde d'aujourd'hui ?
Alors, sa place est centrale.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance ou qu'on recule ?
Les droits de l'homme ont toujours avancé. Il suffit de regarder en arrière. Les droits de l'homme ont toujours avancé et grâce à cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, on a pu justement répandre la question des droits de l'homme en dehors de l'Europe. Parce que il fut une période où les droits de l'homme étaient vraiment la grande affaire européenne et au départ française, un petit peu américaine au XIXe siècle, mais pour d'autres raisons. On va dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme a permis la mondialisation, l'internationalisation des droits de l'homme. C'est un texte qui n'a pas de valeur juridique. Ça, il faut le dire aux auditeurs, elle n'a pas de valeur juridique. Mais par
c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de suivre ce qu'il y a marqué dans cette déclaration.
Surtout, ça veut dire que nous ne pouvons pas invoquer ce texte devant un tribunal. Aucun des tribunaux n'accueillerait pas une requête fondée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été voulu par ses rédacteurs, notamment René Cassin, être un instrument justement de proclamation, de programmation, d'expansion des droits de l'homme dans les pays justement où les droits de l'homme ne sont peut-être pas la préoccupation principale. Mais même dans les pays où on a déjà un certain nombre d'arsenal de protection des droits de l'homme, la Déclaration universelle avait pour vocation aussi, au moment de sa rédaction, d'approfondir la question des droits de l'homme. Alors vous m'avez demandé est-ce qu'on a avancé ou on a reculé. Je vous ai dit, on a avancé. Grâce aux droits de l'homme, on peut faire la corrélation, grâce aux droits de l'homme, on a beaucoup de militants politiques ont pu gagner. Alors, aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques, c'est une lutte liée aux droits de l'homme. Dans les pays, justement, anciens colonisés, vous voyez, la décolonisation, c'est aussi en partie appuyé sur la question des droits de l'homme. L'apartheid, dans le dictionnaire, vous avez une entrée sur l'apartheid. L'apartheid a pu être vaincu grâce aussi à une foi de la communauté internationale et des militants aux droits de l'homme. Et le mur de Berlin, c'est aussi parce que nous avions, la communauté internationale avait voulu vraiment axer sur l'importance des libertés de l'autre côté du mur de Berlin dans l'Est de l'Europe à ce moment-là. Et aujourd'hui encore, parmi les critères, par exemple, de l'attribution du prix Nobel de la paix, vous savez que la Déclaration universelle des droits de l'homme avait permis de conquérir des droits, justement, sur plusieurs points du globe, de la planète. Et je commençais par les États-Unis, la lutte pour les droits civiques. J'ai évoquer aussi la question de la décolonisation. On peut considérer que les droits de l'homme ont pu jouer un rôle dans la réussite de la décolonisation. La chute du mur de Berlin, due également à cette foi aux droits de l'homme. Et j'ai parlé, j'ai oublié, de l'apartheid. Et l'apartheid a été vraiment pu être vaincu grâce, je disais, à un combat, à une foi, aux droits de l'homme. Hein, une foi aux droits de l'homme. Et pour terminer, il apparaît aujourd'hui, à travers par exemple les prix Nobel de la paix, que la lutte d'une personne ou des personnes pour des droits de l'homme reste un critère prépondérant. Et parmi les prix Nobel de la paix, nous en avons un certain nombre qui ont lutté pour les droits de l'homme, dont une, par exemple, à San Suu Kyi, qui est toujours en résidence surveillée.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Aung San Suu Kyi, justement ? Aujourd'hui, on célèbre ce soixantenaire avec ce dictionnaire des droits de l'homme et les droits de la femme.
Vous savez, les droits de l'homme, quand je disais les droits de l'homme sont éternels, le temps des droits de l'homme n'est pas le temps, justement, des médias d'aujourd'hui, de nous-mêmes. Notre temps, aujourd'hui, va très, très vite. Alors que le temps des droits de l'homme est un temps plus long, parce que c'est une lutte. Et on le voit bien, si on retourne en arrière, par exemple, à propos de l'esclavage, vous voyez bien qu'on a mis un certain temps pour arriver à l'abolition. Et même lorsque l'esclavage, dans sa forme ancienne, a été aboli, reste aujourd'hui d'autres nouvelles formes d'esclavage. Et donc, il faut lutter pour ça. Alors, pour Madame Aung San Suu Kyi, par exemple, pour la Birmanie, on peut faire un parallèle avec l'apartheid. On a une junte militaire, une dictature militaire au pouvoir. La communauté internationale, qui n'est plus une communauté du droit des gens d'il y a quelques siècles où on pouvait utiliser la force au nom d'une juste cause. On peut le faire, mais ça n'est pas la tendance aujourd'hui du droit international. Donc on met en place un certain nombre de pressions, des moyens aussi d'instruments du droit international, l'embargo, mais aussi la négociation, les pressions politiques diverses et variées. Tout cela joue en faveur de la libération de tel ou tel pays ou telle personne. Et vous avez évoqué la question des droits des femmes. Et ça aussi, c'est une grande affaire moderne. C'est déjà, justement, dans la Charte des Nations Unies, c'est l'égalité entre l'homme et la femme, la protection des droits de la femme, s'inscrit dans le préambule de la Charte des Nations Unies et, bien entendu, c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les textes internationaux, nombreux aujourd'hui, des traités, mais aussi au niveau national européen, vous avez plusieurs textes qui protègent les droits des femmes. Mais la lutte pour l'égalité, la lutte pour le respect des droits des femmes, c'est une lutte au quotidien, puisqu'on est dans les droits de l'homme. Et là aussi, on ne progresse pas aussi vite qu'on souhaiterait, mais on progresse. Si vous regardez la société française ou la société scandinave, puisqu'on parle toujours de la Scandinavie comme un modèle sur cette question, il y a quelques décennies, les femmes n'avaient pas les droits qu'elles ont aujourd'hui, par exemple, en matière politique.
Mais est-ce que vous pensez qu'on avance dans les droits de l'homme, pour les droits de la femme en Birmanie? Aung San Suu Kyi est emprisonnée depuis tant de temps. Avez-vous vraiment le sentiment qu'on avance dans ce cas précis de résidence surveillée?
Non, là-dessus, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et on n'avance pas pour elle parce qu'elle reste
prisonnière
en résidence surveillée, que ses partisans ne peuvent pas s'exprimer. Vous avez bien vu, lors des derniers événements, les Nations Unies sont envoyées des émissaires, mais ça n'a pas, disons, donné les résultats immédiats qu'on aurait souhaité avoir. Mais quand on croit aux droits de l'homme, il faut avoir espoir. Et moi, je suis convaincu qu'on arrivera en Birmanie à faire progresser les choses comme on est arrivé à le faire justement en Afrique du Sud. Vous vous rendez compte, Nelson Mandela est resté plus de 20 ans en prison, il a réussi à en sortir, on a réussi à faire tomber l'apartheid. Tout n'est pas réglé en Afrique du Sud, mais aujourd'hui, c'est une nation qui va dans la bonne direction en matière de droits de l'homme, mais grâce aux droits de l'homme, vers, je l'espère, un développement socio-économique important.
Alors avant de nous quitter, monsieur, est-ce qu'on pourrait évoquer cette terminologie? Parce qu'au fond, certains parlent de droits de l'homme, d'autres de droits humains. Alors, pourquoi l'un et pas l'autre?
Nous avons choisi le terme droit de l'homme vraiment à dessein et on y a mûrement réfléchi. Nous considérons que les autres termes qu'on propose sont marqués par un certain nombre de luttes contemporaines qui, en fait, vont à l'encontre des droits de l'homme tels que ces droits sont définis depuis le XVIIIe siècle. si on prend droits humains, en fait, droits humains, on se rend compte qu'il s'agit tout simplement d'abord d'une transcription en français du terme anglais, human rights. Sauf que droits humains en français, ça n'a pas la même signification que droits de l'homme. Droits humains, ce n'est pas très très clair. Est-ce que c'est distinguer les droits humains des droits inhumains, vous comprenez ? Est-ce que c'est distinguer les droits humains des droits des animaux, par exemple ? Donc là, ce terme en lui-même en français est source plus de questions que de précisions. Donc on n'a pas voulu utiliser les termes droits humains pour cela. Par ailleurs, on peut vous proposer les termes droits de la personne humaine. Mais là aussi, si ça peut, disons, porter une certaine idée de l'égalité homme-femme, en fait, droit de la personne humaine en français, en droit français, limite la question des droits uniquement à ce qui concerne le corps humain, la personne humaine, mais sous l'angle, par exemple, du droit civil. Et donc, ça ne permet pas d'aborder des questions telles que, tout simplement, le droit de vote, par exemple, qui est un droit de l'homme important et qui ne peut pas être analysé dans le cadre des droits de la personne humaine en droit français. Tandis que droit de l'homme est une expression du XVIIIe siècle, des philosophes des Lumières, qui a une signification à la fois juridique, mais aussi une signification politique et philosophique. Et des droits de l'homme, là, les premières déclarations du XVIIIe siècle sont des déclarations des droits de l'homme, telles que l'intitulé, d'ailleurs justement, de la déclaration française de 1789. Et derrière cela, selon l'expression, on pense évidemment au genre humain, pas à l'homme en tant que sexe d'un être humain. C'est pas voilà, les droits de l'homme sont l'expression des droits de l'être humain. Voilà. Et donc pour cela, nous l'avons maintenu. Et vous le voyez bien aujourd'hui dans l'actualité, les droits de l'homme portent justement aussi cette lutte, cette conquête pour les droits de l'homme. On peut utiliser aujourd'hui dans les droits positifs, notamment en Europe, le terme aussi « droits fondamentaux ». Ce sont des termes qui sont hérités notamment du droit allemand. Et si on regarde un peu l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de la France, l'Allemagne a choisi le terme « droits fondamentaux » justement parce que ces droits étaient réservés à quelques-uns, ça n'était pas reconnu à tous, tandis que les droits de l'homme ont vocation à bénéficier à tous.
Merci beaucoup, monsieur Andréan Tsimbazovina. Je rappelle que vous êtes co-directeur du Dictionnaire des droits de l'homme, édité au PUF, Presse universitaire de France, évidemment avec d'autres co-directeurs qui font partie d'une équipe de près de 180 auteurs, vous disiez tout à l'heure. Donc, à l'occasion du soixantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on vous souhaite évidemment un bon accueil, on souhaite un bon accueil à ce dictionnaire et on vous invite à écouter toutes nos émissions sur les droits de l'homme et de célébrer ensemble ce 60e anniversaire.